Voilà, viens Esprit très Saint, viens, viens purifier nos cœurs, viens nous ouvrir, viens ouvrir dans notre cœur un chemin de conversion pour aller vers la croix victorieuse et glorieuse, la croix qui nous sauve, la croix de Jésus-Christ. Ce temps du carême est un temps où nous marchons vers la croix. Ça n'a rien de très enthousiasmant à la base, mais en fait, cette croix, c'est notre salut. Cette croix, c'est la porte du ciel. C'est la porte de la vie éternelle. Voilà pourquoi cette croix, qui est un instrument de supplice, est encore plus dure à voir pour les personnes du temps de Jésus qu'aujourd'hui, parce que ces gens-là voyaient des personnes crucifiées régulièrement sur les chemins. Quand des brigands étaient crucifiés, quand on les mettait à mort, on les crucifiait. Donc la croix était vraiment un objet d'horreur à cette époque-là. C'est pour ça que même que dans les premiers temps, la croix n'a pas été représentée tout de suite. Il a fallu du temps pour qu'on représente la croix. Eh bien, cette croix qui est un objet d'horreur devient pour nous un objet de salut parce qu'elle est elle est le signe de l'amour victorieux de Jésus sur la haine, sur la mort, sur la souffrance. Nous allons écouter lecture du livre de Joël, qui faisait partie de la première lecture hier, pour ceux qui étaient à la messe du mercredi des cendres, le tout début de la première lecture. Du livre de Joël, au chapitre 2, à partir du verset 12. « Mais encore à présent, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce et la regret du mal. » Voilà, c'est un cri, ce texte, c'est un cri, je dirais, de Jésus, mais un cri d'amour, pas un cri de désespoir, parce que le Seigneur ne désespère jamais, mais un cri d'amour, un cri de détresse, non pas pour le Seigneur, mais pour nous. Un cri de détresse pour nous parce que le Seigneur veut à tout prix que nous soyons sauvés. Il veut à tout prix que nous rentrions dans le règne de l'amour, de la vérité, dans la lumière. Et bien sûr, le Seigneur fait tout pour cela, mais si nous-mêmes, nous estimons qu'il n'y a rien à faire, que ça va très bien comme ça, qu'il n'y a rien à changer dans notre vie, ben le Seigneur il peut faire pleuvoir toutes les grâces qu'il veut. Ben, c'est comme si on fait peu tomber de l'eau sur la pierre, ça ne fait rien du tout, d'accord? Donc le Seigneur nous supplie de tout son cœur qui nous aime, de revenir vers lui. Parce qu'en fait, on croit que le Seigneur nous a oubliés, qu'il ne pense pas à nous, qu'il est loin. Et c'est tout le contraire. Ce n'est pas le Seigneur qui nous oublie, c'est nous qui oublions le Seigneur. C'est nous qui nous éloignons du Seigneur. C'est nous qui faisons nos petites choses et qui n'écoutons pas sa parole. Et le Seigneur voit cela, et il voit cela, et il voit que cela nous détruit, que cela nous conduit à la mort, que cela nous conduit vers la mort éternelle, l'enfer. Pour le Seigneur, c'est insupportable de voir ses enfants qui se détruisent, qui se mutilent mutuellement, qui se font du mal. Donc c'est un cri de détresse, un cri d'amour du Seigneur. « Revenez à moi !» De tout votre cœur, oui, de tout votre cœur, pas simplement « Voilà, Seigneur, je reviens, je vais te donner 3 minutes dans ma journée, là, je vais vraiment revenir à toi pendant 3 minutes, puis pendant les 23 heures et 57 minutes qui restent, je vais faire ce que je veux. » Non, revenez à moi de tout votre cœur, revenez de tout votre cœur. Et pour revenir de tout notre cœur vers le Seigneur, eh bien, je crois qu'il faut demander au Seigneur la grâce de l'affliction, ce qu'on appelle le don des pleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà pleuré sur vos péchés, sur vous-même. C'est une grâce de pouvoir pleurer devant le Seigneur, en disant « Mais Seigneur, j'ai fait ça, ça me fait pleurer. Ce que j'ai fait, ça me fait pleurer, Seigneur. Je pleure devant toi. » Ce n'est pas juste en disant « Seigneur, moi, c'est Seigneur, je n'ai pas beaucoup de péchés, puisque tu me connais bien, Seigneur. Moi, j'ai quasiment pas de péchés, peut-être une fois par an maximum. » Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Non, on a de quoi pleurer, chacun de nous, on a de quoi pleurer sur nous. Parfois, on a fait mal aux autres, pas toujours en le voulant, bien sûr, mais parfois parce qu'on n'était pas assez dans la prière, pas assez dans la paix, pas assez attentif. Il y a de quoi pleurer chacun de nous, on a de quoi se lamenter, se pleurer sur ce qu'on a fait. Il ne s'agit pas de pleurer pour se flageller et se taper dessus. Il s'agit de pleurer parce que les pleurs ouvrent le cœur. L'affliction ouvre le cœur. Quand on pleure, je ne sais pas si vous avez remarqué, après, notre cœur est comme devenu un peu plus tendre. Quand on a pleuré, si ce n'est pas des pleurs d'endurcissement, c'est des pleurs d'affliction, on sent que son cœur est devenu comme plus tendre, plus fragile, plus pauvre. Le Seigneur nous invite, donc, à travers le prophète Joël, à revenir vers lui dans les pleurs et les cris de deuil, aussi dans le jeûne. Alors, tout le monde ne peut pas forcément jeûner. Ceux qui sont malades, on ne leur est pas recommandé de jeûner de nourriture. Mais on a tous, quelque part, à enlever des choses dans nos vies, à désencombrer nos vies pour donner plus de place à Dieu. Vous voyez, on est dans une société où on accumule beaucoup. La publicité nous invite à acheter, acheter, acheter sans cesse. Quand on n'a pas le dernier iPhone, il faut acheter le dernier iPhone. Quand on n'a pas le dernier truc, dernière télé, il faut acheter la dernière télé, et puis encore autre chose. Toujours quelque chose à acheter. Et si on achète, la publicité nous dit, mais vous allez être heureux, vous allez voir, on nous présente des gens qui sont hyper heureux d'avoir acheté je ne sais pas quoi. C'est le paradis. Nous, on achète la même chose et nos vies, ça, non, ça ne change pas grand-chose. On est content d'avoir le dernier iPhone, la dernière télé, mais c'est tout. Ce n'est pas vraiment le bonheur, et au contraire. Plus on va accumuler des biens, plus on va être malheureux, parce qu'on va être encombré de choses, et finalement, ça va nous empêcher de nous ouvrir à l'essentiel, à Dieu. Le Seigneur nous invite à jeûner, c'est-à-dire à nous désencombrer. Pas forcément de la nourriture. On peut jeûner de nourriture, parce que la nourriture, symboliquement, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, c'est bien de dire au Seigneur, « Seigneur, je vais t'offrir cela. Je vais offrir quelque chose qui va me manquer. Voilà. » Dans notre société, on ne supporte plus de manquer, parce que la publicité nous dit, « Mais si tu manques de quelque chose, t'es qu'un pauvre imbécile. T'as qu'à acheter ça, tu manqueras plus rien. Tu vas être complètement heureux. Il ne faut pas manquer, c'est pas bien. » Eh bien, le Seigneur nous dit ici, dans la vie, il est important qu'il y ait des manques, parce que ça nous apprend la pauvreté, la petitesse. Parce que, là encore, il ne faut pas être masochiste, bien sûr. Mais c'est important qu'il y ait des lieux de pauvreté dans nos vies pour nous ouvrir à Dieu, pour dire au Seigneur, sur cette terre, eh bien, il me manque l'essentiel encore, c'est toi, mon seul bonheur, c'est toi, Jésus. Saint Thomas d'Aquin, qui était un grand théologien du XIIIe siècle, à la fin de sa vie, il a eu une vision, il a vu Jésus. Et Jésus lui a dit, « Thomas, tu as bien écrit sur moi. » Il a écrit plein de bouquins sur Jésus, la théologie. On les lit encore aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il lui a dit, « Thomas, tu as bien écrit sur moi. Qu'est-ce que tu veux comme récompense ? Je vais t'offrir une récompense pour tout le travail que tu as fait. » Et il bossait tout le temps. Thomas d'Aquin, il priait, il bossait, il priait, il bossait, il faisait que ça. Donc il avait le droit à une récompense. Eh bien, Thomas d'Aquin, il a dit à Jésus, « Vous, Seigneur, ma récompense, c'est vous, Seigneur. » Notre récompense, c'est Jésus. Et il a fait la bonne réponse. Parce que quand on a Jésus, on a l'amour, on a la paix, on a tout. On a Dieu avec nous. Jésus, c'est l'Emmanuel. Alors que si Thomas d'Aquin avait dit, « Ah ben, Seigneur, j'ai une belle télé. » Bon, très bien, mais ça n'a pas beaucoup changé sa vie. Ce n'est pas ça qui va lui apporter la vie éternelle. D'accord ? Ça ne nous empêche pas d'avoir une belle télé. Je ne dis pas que c'est mal d'en avoir une belle. Mais vous voyez que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Seigneur. Et dans notre vie, on met tellement de choses qui nous encombrent, qui nous empêchent de mettre le Seigneur au milieu. Et du coup, eh bien, ça a des conséquences sur notre vie. On va développer parfois des addictions. Parfois, on va avoir des comportements violents. Parfois, on va s'enfermer, on ne va pas être attentif aux autres, on va juger, on va avoir de mauvaises relations. Tout ça va être généré par le fait que Jésus n'est pas au centre de notre vie. D'accord ? Donc, il faut demander au Seigneur cette grâce de pouvoir l'accueillir dans notre cœur, mais accueillir son amour. Ne pas penser que Dieu vient à nous pour nous condamner. Il vient à nous pour nous sauver. Et pour faire ce chemin de conversion, il faut demander au Seigneur la grâce de la vertu la plus importante de la vie chrétienne. C'est la grâce où tous les saints parlent sans cesse. Je vous laisse 30 secondes pour y réfléchir et essayer de choisir la vôtre. C'est la grâce de l'humilité. La grâce de l'humilité. La grâce de l'humilité, c'est ce qui nous permet d'accueillir tous les dons que Dieu veut nous donner. L'humilité, ça vient du mot humus en latin, c'est la terre. Celui qui est humble, il est comme une terre qui se laisse féconder. Celui qui est orgueilleux, le Seigneur ne peut rien planter sur cette terre. Et la grâce de l'humilité, elle vient à travers la vie, parfois à travers les humiliations, mais surtout à travers la pauvreté, la petitesse, remercier le Seigneur, même pour les choses qui sont difficiles à vivre. Alors le Seigneur nous demande donc de commencer ce chemin de carême, non pas en disant qu'on va faire des efforts titanesques, mais d'abord en demandant au Seigneur la grâce de l'humilité et en demandant à l'Esprit Saint, « Bien Seigneur Esprit Saint, dans ma vie, il y a certainement beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Et je ne peux pas tout changer en même temps, ce n'est pas possible, je ne suis pas capable. Mais montre-moi telle petite chose ou telle petite chose que tu veux m'aider à changer, que tu veux m'aider à changer. » Saint Augustin disait, « Seigneur, demande-moi ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux, mais donne-moi ce que tu me demandes. » Autrement dit, tu me demandes ce que tu veux, mais je ne peux pas le faire. Donc il faut que tu me donnes ce que tu vas me demander. Une fois que tu m'as donné ce que tu m'as demandé, je peux te le donner. D'accord ? Voilà. Eh bien, demandez au Seigneur la grâce d'être libéré de je ne sais pas quoi, et ensuite, une fois libéré, on arrive à avancer. Vous voyez ? Évidemment, le Seigneur nous demande souvent de persévérer dans notre prière. Et à la fin de ce texte, Joël dit que Dieu est tendresse et pitié. Revenez au Seigneur votre Dieu, il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce. Ça, c'est ce que Dieu avait révélé à Moïse. Rappelez-vous, il était passé, Moïse avait demandé la grâce de voir Dieu, il ne l'a pas vu, mais Dieu est passé à côté de Moïse, et Moïse a entendu que Dieu était tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce. C'est aussi quelque chose que reprend le psaume 145. Il est lent à la colère et plein d'amour. Sa tendresse est pour tous, sa bonté pour toutes ses œuvres. Le but de notre vie, c'est de découvrir cela, de découvrir que Dieu est lent à la colère et rempli d'amour pour nous, de découvrir son amour. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais parlé d'Ézéchiel qui rentre dans le fleuve de plus en plus profondément. Eh bien, l'amour de Dieu, c'est comme un fleuve dans lequel on entre de plus en plus profondément. Et plus on avance en âge, plus on peut avancer dans l'amour de Dieu, parce que plus on a fait de péché, plus on a fait des choses qui ne sont pas bien, donc plus on a besoin de la miséricorde de Dieu, et plus on s'aperçoit que cette miséricorde est là, toujours là, et plus on s'en émerveille. Donc plus on avance en âge, d'une certaine manière, plus on devrait avoir découvert que ce fleuve dans lequel on est plongé est très très profond, très profond. Tellement de fois on est revenu vers le Seigneur, nous promettre qu'on ne recommencerait plus, on a recommencé, et ensuite le Seigneur nous a encore pardonné, encore et encore et encore. Quand nous lui demandons pardon, quand nous nous confessons, quand dans la prière, nous lui demandons pardon. Alors maintenant, je vais lire quelques témoignages de grâces qui ont été reçues à cette prière. Et je vais commencer par une grâce spirituelle qui a été donnée. Je ne donne pas même pas le prénom de la personne, parce que comme c'est une grâce de conversion, c'est un peu personnel comme témoignage, je ne donne pas de prénom pour qu'on ne sache pas qui c'est. En janvier 2016, une parole à la prière des malades m'a délivré de ce poison que j'avais, la jalousie. Depuis quelque temps, je me confessais souvent de ce péché, la jalousie, qui empoisonnait ma vie, poison pour l'esprit et pour le corps. Et un jour, lors d'une confession, un prêtre m'a dit « On vous a implanté cette jalousie en vous ». C'était un choc pour moi de réaliser ceci. Je suis d'une famille nombreuse, et depuis que je suis petite, ma mère me compare avec mes sœurs, ma cousine, mon amie, la fille de la voisine, qui sont toutes plus jolies, plus intelligentes, qui travaillent mieux à l'école que moi. Donc en faisant cela, sa mère a implanté la jalousie dans le cœur de sa fille, en disant que les autres étaient toujours meilleurs qu'elle. Ce poison me démolit physiquement et moralement. Même adulte, vous avez toujours l'impression d'être nul ou que vous ne méritez pas les compliments. Ce poison m'empêche de me réjouir pour les autres, car je me compare toujours à eux. Lors de cette confession, j'ai pris conscience que seul le Seigneur pouvait me guérir de ce poison, la jalousie. Et un jour, à Saint-Nicolas-des-Champs, j'ai entendu qu'une personne était délivrée de la jalousie. C'était une parole de connaissance. J'ai pensé tout de suite que c'était pour moi. Je me suis senti dans une grande paix morale et physique. C'était reposant. Puis petit à petit, je ne me suis plus comparé aux autres. J'ai commencé à me réjouir de tout ce qui arrivait aux autres et de rendre grâce au Seigneur de m'avoir délivré de ce péché et pour cette guérison. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Voilà une guérison spirituelle. Merci Seigneur. Alors un témoignage de Christian qui avait perdu la sensibilité dans les mains suite à une lésion de la moelle épinière. En 2015. Alors on lui avait dit que peut-être qu'il retrouverait la sensibilité, mais ce n'était pas sûr. Et il est venu à la prière des malades en mars 2016. Et une parole a dit qu'une personne n'a plus de sensibilité dans les mains et que le Seigneur guérit cette personne. Et il a été guéri de ses mains. Les jours suivants, il a retrouvé 90% de sa sensibilité. En particulier, il n'était plus capable de distinguer le chaud et le froid sur le bout des doigts. Et bien, tout cela s'est revenu. Et grâce à cette guérison que le Seigneur lui a donnée, il a été renouvelé dans sa foi et il témoigne de cette guérison. Merci Seigneur. Alors, j'ai aussi un témoignage, une lettre cette fois-ci. C'est bien de m'écrire aussi des lettres, comme ça c'est clair. Donc, c'est Sully qui m'a écrit une lettre. Alors, je ne lis pas toute sa lettre, je lis des passages. Donc, j'ai ce jour 59 ans, je suis à la retraite. Suite à la rencontre avec mon dentiste Patrick, où je me rendais pour des consultations, il y en a acquis entre nous une affection amicale et nous nous sommes parlé librement. Je venais à son cabinet en boitant parce que j'avais mal au genou. Mon dentiste m'a parlé de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, dont j'ignorais absolument l'existence. Bien que je connaisse pas mal de paroisses étant liées à la communauté, je ne sais pas si je dis très bien, bien que je connaisse pas mal de paroisses étant liées à la communauté antillaise. Mon chirurgien prothésiste m'avait préconisé de m'installer une prothèse au genou gauche quelques mois auparavant. De toute façon, cette maladie était pour moi normale, car c'est une maladie héréditaire, aussi bien du côté paternel que maternel. Nous sommes nombreux dans notre famille à être dans cet état, donc à boiter. Après m'être rendu à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, en compagnie de mon dentiste, qui sont venus ensemble, c'est sympa, je me suis juste dit, Seigneur, il y a bien plus malade que moi. Voilà. Mais les jours qui suivent, je retourne plusieurs jeudis à la prière des malades, et voilà le bonheur, je me mets à descendre des escaliers de mon sixième étage en sautillant de marche en marche, sans tenir la rampe dont j'avais besoin auparavant. Mon épouse m'interpelle, « Pourquoi tu m'attends plus? Tu n'as point mal, tu cours comme un lapin maintenant. » Et là, je prends conscience, sans que je m'en rende compte auparavant, que je n'avais plus mal à mon genou gauche. J'étais guéri, gloire au Seigneur. Depuis ce jour, je fais du vélo, je cours, je remercie à chaque jour de mes mots notre Père Céleste. Allez, continue sa lettre pour remercier le Seigneur. Enfin, il termine, qu'il est grand, le mystère de la foi, gloire à Dieu, Amen. Merci pour ce témoignage. Alors, il y a plusieurs mois, il y a une parole de connaissance qui avait annoncé qu'une personne a vu, durant la nuit, sa chambre illuminée et qu'elle avait été réveillée par cela, par cette lumière. Le Seigneur l'appelait particulièrement à conduire des personnes vers lui. Une femme qui s'appelle Isabelle qui s'est reconnue dans cette parole car elle avait été réveillée en pleine nuit quelque temps auparavant et elle avait vu comme des étoiles illuminer sa chambre. Elle avait constaté que cette lumière n'avait pas pu rentrer par les volets qui étaient hermétiquement fermés. Et en parlant avec elle, j'ai pu constater qu'effectivement, elle amène beaucoup de personnes vers le Seigneur, en particulier en les accompagnant dans des pèlerinages. Voilà, c'était une manière pour le Seigneur de la confirmer dans sa pastorale des pèlerinages, des personnes qu'elle accompagne vers Jésus à travers des pèlerinages. Marie-Alice est venue il y a plusieurs années en traînant les pieds à la prière des malades et en disant dans son cœur « Jésus et Marie ne me connaissent pas, ce n'est pas la peine de venir. » Or ce jour-là, il y a une parole de connaissance qui a repris exactement ce qu'elle disait en informant cette personne qui pensait que Jésus ne la connaissait pas, que Jésus et Marie la connaissent très bien. Elle a eu le cœur qui bat très fort lors de cette parole. Françoise a été guérie d'une hernie discale lors d'une assemblée de prière des malades. Il y avait une opération qui a été programmée qui a été annulée. Et elle a aussi été guérie de problèmes d'arthrose qui la faisaient souffrir. Et je vais terminer par le témoignage de Yasmina, qui lors d'une prière a ressenti une chaleur dans l'épaule droite. Et depuis, elle peut à nouveau bien bouger son bras. Elle avait avant une épaule bloquée. En particulier, elle n'arrivait plus à faire le signe de croix. Grâce à cette guérison, elle peut à nouveau faire le signe de croix. Voilà, merci Seigneur pour ton œuvre magnifique, tous les témoignages de ces personnes. Te demandons de continuer ton œuvre dans notre prière et de nous donner la foi. Amen.